RFI, il est minuit ici à Paris, 23h en temps universel et 13h à Bora Bora. Et c'est Antoine Gallen qui vous attend pour le journal. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. À la une, Donald Trump signe un décret pour démanteler le département de l'éducation. Une nouvelle attaque du président américain contre les idées progressistes. Il dit vouloir renforcer le niveau national de l'éducation. Dans ce journal également, cela faisait 2 ans qu'il était emprisonné en Iran. L'américain George Glasman est sorti de prison ce jeudi. Et puis un seul tour aura suffi à Kirsty Coventry pour gagner l'élection du Comité international olympique. Elle devient la première femme de l'histoire à prendre la tête de l'organisation. Son portrait à suivre. Le département de l'éducation américain en danger. Donald Trump vient de signer un décret pour le démanteler. C'était une promesse de campagne du président américain qui dit vouloir redonner tout le pouvoir en matière d'éducation aux États. Pour lui, il veut renforcer le niveau national de l'éducation, même si la décision de supprimer totalement le département revient au Congrès. Donald Trump veut tout faire pour mettre fin aux activités du ministère.
Aujourd'hui, nous concrétisons une décision historique qui était attendue depuis 45 ans. Et cela semble bizarre comme ça, le département de l'éducation sera éliminé. Mais tout le monde sait que c'est une bonne idée. Les États qui y travaillent bien auront une éducation qui pourra rivaliser avec celle de la Norvège, de la Suède et de tous ces pays qui sont au top du classement dans ce domaine. Je suis persuadé que ces États feront du très bon boulot, un travail phénoménal.
Aux États-Unis toujours, George Glasman, prisonnier des talibans pendant plus de 2 ans, a été libéré ce jeudi. Cet ancien mécanicien de la compagnie aérienne américaine Delta Airlines est en route pour les États-Unis. Une libération annoncée au terme d'une rare visite d'une délégation américaine à Kaboul. Théo Renaudot.
C'est la première délégation américaine à se rendre dans la capitale afghane, Kaboul, depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, une délégation reçue par le ministère taliban des Affaires étrangères. Jusqu'ici, des contacts avaient bien lieu, mais c'était généralement au Qatar qui joue un important rôle de médiateur. Au menu des discussions, relations bilatérales, services consulaires pour les Afghans qui habitent aux États-Unis et échange de prisonniers. Après cette libération de George Glasman, il reste encore 2 Américains dans les geôles talibanes, dont une Américaine arrêtée il y a 1 mois et demi. 2 autres ont été libérés en janvier au soir de l'investiture de Donald Trump. Donald Trump qui, souvenez-vous, avait signé en 2020 un accord avec les talibans pour retirer les troupes américaines d'Afghanistan en échange d'engagements talibans de chasser des groupes terroristes du pays comme Al-Qaïda. Un retrait qui s'était achevé sous Joe Biden dans un chaos total.
Lui aussi a été libéré. Olivier Grondeau est sorti des geôles iraniennes ce jeudi. L'homme de 34 ans avait été condamné en octobre 2022 à 5 ans de prison pour espionnage. Nous partageons l'immense bonheur et soulagement de sa famille, les mots d'Emmanuel Macron. Le président français ajoute que la mobilisation ne faiblira pas. 2 autres ressortissants français sont encore emprisonnés à Téhéran. L'actualité dans la région, c'est également ces tirs sur Tel Aviv de la part du Hamas. Première riposte après les attaques meurtrières de l'armée israélienne qui ont fait plus de 500 morts en 3 jours selon la défense civile palestinienne. L'armée israélienne a interdit toute circulation sur le principal axe routier qui traverse l'enclave du nord au sud. Elle ajoute que son opération terrestre à Rafah doit s'étendre dans le centre et le nord de la bande de Gaza. Volodymyr Zelensky appelle l'Europe à rester ferme face à Vladimir Poutine. Message adressé lors du Conseil européen à Bruxelles ce jeudi. Le président ukrainien a précisé que l'Ukraine ne discutera pas d'un transfert aux États-Unis de la propriété de ses centrales nucléaires. Ce qui avait été proposé par Donald Trump à quelques jours de la rencontre Russie-États-Unis qui se tiendra lundi en Arabie Saoudite. Autre annonce lors de ce Conseil européen, un sommet de la coalition de volontaires se tiendra jeudi prochain à Paris en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est ce qu'a déclaré le président français Emmanuel Macron. Pour la première fois de son histoire, c'est une femme qui prendra les rênes du Comité international olympique. Kirsty Coventry, nageuse médaillée olympique de nationalité zimbabwéenne, a été élue hier avec 49 des 97 voix comme présidente du CIO. Seule femme parmi les 7 candidats, elle succédera à Thomas Barr à la tête de l'institution depuis 2013. Retour sur le parcours d'une sportive qui a embrassé une carrière politique dans son pays avec Paul Lorgerie.
Kirsty Coventry était certes la seule femme candidate, mais elle était également la plus jeune de tous du haut de ses 41 ans. Née à Harare en 1983, elle baigne dans une famille de nageurs qui lui apprend la discipline dès son plus jeune âge. Habituée des Jeux du Commonwealth à ses débuts, elle participe à ses premiers Jeux Olympiques en 2000, avant de décrocher son premier titre olympique 4 ans plus tard, à Athènes, lors de l'épreuve du 200 mètres d'eau, titre qu'elle renouvelle à Pékin en 2008. Un palmarès auquel s'ajoute une multitude de médailles d'or, d'argent et de bronze dans différentes compétitions internationales. Petite fille de colon, on se souvient qu'elle avait été reçue avec les honneurs lors de son retour au pays après les Jeux. Le président d'alors, Robert Mugabe, la qualifiant d'enfant du Zimbabwe et de fille en or. En 2013, elle entre au CIO en tant que représentante de la commission des athlètes, poste qu'elle occupe jusqu'en 2021, année où elle devient membre individuel. Entre-temps, la nageuse devenue maman d'une petite fille embrasse une carrière politique en 2018, devenant ministre zimbabwéenne de la jeunesse, des sports et des arts, fonction qu'elle occupe encore aujourd'hui.
Kirsty Coventry prendra ses fonctions le 23 juin prochain. Le général et chef d'état-major ougandais Muwuzi Kainerugaba, également fils du président Yoweri Museveni, est arrivé ce jeudi après-midi à Kigali. Le patron de l'armée de Kampala a été accueilli par son homologue rwandais, le général Mubarak Muganga. Il doit rencontrer au cours de sa visite plusieurs personnalités de l'appareil militaire rwandais. Jeudi 20 mars, journée mondiale de la francophonie, quelques jours après l'annonce du Mali, du Niger et du Burkina Faso de leur départ de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Mali avait motivé son départ en accusant l'organisation de ne pas respecter la souveraineté de son pays, suspendu après le coup d'état militaire en 2020. Et même si ces départs ne seront effectifs que dans 6 mois, le député français de la France Insoumise, Aurélien Taché, les regrette. Celui qui est aussi rapporteur d'une mission d'information sur l'avenir de la francophonie espère une rénovation du projet francophone.
Je souhaite qu'il ne rompe pas avec le projet et la famille francophone. Je suis partisan du fait qu'on ait une francophonie qui est dans un monde où on assiste à un retour des empires avec l'impérialisme américain ressuscité par Donald Trump, celui de Monsieur Poutine. On pourrait avoir un monde francophone qui soit justement la voie d'une émancipation des peuples et à partir de ça être capable de travailler sur des causes qui nous rassemblent pour relever les grands défis de demain. Je pense bien sûr au réchauffement climatique, je pense bien sûr à tout un tas de sujets qui se posent et sur lesquels le monde francophone pourrait faire entendre une voix forte au service de la paix, au service d'un ordre international plus juste. Je plaiderai pour ma part pour une refonte profonde des institutions de la francophonie, car sinon cette belle idée risque de péricliter. Et moi je suis convaincu que la langue française charrie un modèle et des valeurs différentes de celles du monde de force et de brutalité dans lequel nous entrons.
Aurélien Taché, député de la France Insoumise, des propos recueillis par Stéphane Duguay. 10 ans de prison requis contre Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien comparaissait ce jeudi à un tribunal près d'Alger. Connu pour ses critiques du pouvoir algérien, il est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Un processus purement politique, dénonce son avocat. Le verdict est attendu jeudi prochain. Emmanuel Macron souhaite une issue rapide de cette affaire qui envenime des tensions déjà fortes entre Paris et Alger. Quelques mots de culture à Paris, le Centre Pompidou accueille une exposition intitulée Paris Noir, Isabelle Chenu.
Cette histoire n'a pratiquement jamais été racontée en France. Elle a toujours été négligée, c'est un angle mort de l'histoire de l'art, et aujourd'hui elle fait retour dans une narration, je dirais, plus équilibrée, qui n'invisibilise pas une catégorie d'artistes.
Florence Alexis défend depuis longtemps la création africaine et caribéenne à Paris. Elle a accompagné l'exposition Paris Noir. Sur 2000 mètres carrés, 300 œuvres se déploient pour combler une lacune, montrer les styles et la production d'artistes noirs venus depuis les années 50, étudiés, créés à Paris, pôle naturel d'attraction artistique et métropole coloniale. Ils sont originaires d'Afrique, des Caraïbes ou d'Amérique du Nord, en proie alors à la ségrégation raciale. L'exposition est construite comme un réseau permettant de mieux comprendre le travail de 150 d'entre eux. Eva Barois de Cavel est commissaire associée de l'exposition Paris Noir.
Qu'on arrête de considérer ces œuvres comme des détritus de la modernité, pour le dire très violemment, qui est quand même une chose qui continue à être entendue. Et j'espère vraiment que cette exposition, par son ampleur, sa richesse et sa beauté, va poser ça de façon irréversible.
Paris Noir sera une exposition de découverte pour les visiteurs et pour les professionnels de l'art. Elle a nécessité un travail d'enquête impressionnant qui a permis de reconstituer des parcours aussi divers que singuliers.
L'exposition Paris Noir qui retrace la présence et l'influence des artistes noirs en France entre 1950 et 2000. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.